Il était le fauteur de quelques bouquins et de beaucoup de nouvelles impubliables, mais surtout d'innombrables lettres d'amour. Il aimait passionnément écrire des lettres d'amour, s'enflammait vite et était inextinguible, comme un feu de brande. Ce qu'il préférait, la rédaction de lettres d'amour anonymes et tendres aux vieilles dames qui n'en reçoivent plus, et parfois n'espéraient plus en recevoir jamais. Simone, 60 ans passés, bientôt 70, enfondée comme un carambar au soleil. Il la faisait rêver, décoller, planer. L'une, à 96 ans, trouvait encore les forces de trottiner jusqu'à la boîte aux lettres et de guetter le facteur pour ressentir encore ses extraordinaires et inespérées bouffées de tendresse. Il postait ses lettres des endroits les plus exotiques de la Terre, que son métier de convoyeur de voilier lui faisait visiter régulièrement, ce qui avait don de renforcer les faits. Coloration des timbres, pouvoir d'évocation des imaginations. Il mettait parfois un mois de traversée et plus à concocter une des missives, bourré de ses bouffées de passion et de tendresse. Puis, il les mettait au propre, avec de la vraie encre et à la plume sergent-major. Elles étaient sensibles aux sentiments exprimés par ce loup tendre et solitaire. Le sentiment en était renforcé par l'encre violette et les fines rondes de la plume, qui inconsciemment les ramenaient à des indéfinissables sensations d'enfance. Il aimait passionnément lancer de l'amour comme on lance un boomerang vers ces femmes à la peau ravinée de rides, mais dont les âmes avaient su rester lisses et tendues, de cette jeunesse vive qui transparaît toujours dans les yeux. Il aimait passionnément maturer ses lettres, qu'il rassemblait en un gros classeur titré « Œuvre d'amour au long cours ». Ces lettres ressuscitaient des frissons endormis comme des chattes. Elles étaient comme des caresses de plumes d'ange sur des épidermes assoupis par l'âge. Lui, seul, dans ses immensités océanes, ne recevait plus d'amour depuis si longtemps qu'il avait choisi de donner. Donner aux femmes, à la femme, qui de fragile en pathétique devient seule. Donner à ces femmes vieillissantes ou déjà vieillies, qui sourient si souvent, afin que plus tard encore, leur rite soit bien placé, comme disait Madame de Maintenon. Comme en un acte d'amour infini, il créait le bonheur d'exister encore et d'espérer demain. Une fois pourtant sa folie épistolaire dépassa tout. Il naviguait de conserve avec un autre voilier de même type pour une traversée de l'Atlantique par les Alizés. L'équipière de l'autre voilier, une petite femme séduisante, lui laissait un sentiment de malaise et l'attirait. Elle semblait avoir du mal à gérer tout à la fois ses élans et ses retenues, comme un petit cheval fougueux, trop grossièrement débourré. Ce fut une nuit de Noël qu'il lui rédigea une longue lettre tendre. Puis le lendemain, rattrapant l'autre voilier, il annonça que le facteur était passé et qu'il était venu leur jetant un sac. La petite équipière courut s'isoler, sa lettre à la main, puis pleura longtemps et à gros sanglots, devant ce courrier, hauturier, tendre, inattendu et plein d'un amour simplement déclaré, sans cette pudeur terrienne excessive qu'il ne considérait pas de mise en mer. Elle pleurait comme une enfant. En fait, elle était orpheline de mère et de père inconnus. Elle recevait enfin, à 27 ans, cette belle lettre qu'elle avait tant attendue dans les pensionnats et les colos de son enfance de valise. Cette lettre qui n'arrivait jamais alors que les copains et les copines recevaient des cartes postales colorées avec des beaux timbres et des mots gentils dessus. Cette vraie lettre avec un vrai faux timbre dessiné à la main. Cette lettre pleine de mots chauds et doux. Cette lettre qui arrivait là où elle ne l'espérait même plus. Là où il était impossible de l'espérer, au grand large. Tout au long de cette traversée, le courrier passa tous les jours d'un voilier à l'autre, échangeant rêves, fantasmes, cadeaux, dessins, tout ce que des créatifs amoureux de la vie peuvent échanger sur la peau de ce révélateur d'humanité qu'est la mer. À l'escale, ils commandaient par correspondance pour l'escale suivante les livres qu'ils souhaitaient qu'elle lise. Ils partagèrent ainsi de voilier à voilier, naviguant à vue pendant près d'un mois le bonheur de correspondre, la joie de correspondre jusqu'au bout, comme au siècle passé, par poèmes, lettres, délires, rébus et charades, petites pensées intimes et rêves avoués. L'attention à l'autre et le besoin de l'autre occupaient totalement le temps et l'espace. Depuis cette traversée magique de concert avec elle, il n'a jamais cessé d'écrire des lettres d'amour. Il en a vérifié l'effet thérapeutique sur une vieille femme cancéreuse, sur des enfants de pas 20 ans, sur des vieillards aux yeux de tortue, et même sur une petite fille de 3 ans. Il a vu par ses mots un deuil se faire, avec toute la libération que cela implique. Il a vu ce travail de deuil, cette renaissance douloureuse s'effectuer sur la feuille blanche. C'est un bonheur à la portée de ses moyens financiers. Un timbre, une enveloppe, du temps, beaucoup de temps. Quelques fleurs d'imagination, quelques graines d'attention enrobées par de belles phrases et un bonheur à retardement est amorcé. Certaines de ses correspondantes, telle Nadine, avaient la délicatesse de lui envoyer des timbres, mignonne comme une droguée montrant sa thune à son dealer pour avoir sa dose. Les pistoleros préparent déjà des lettres d'amour qui partiront après sa mort. Ces lettres sont des boutures de joie qui prennent en toute terre. Il s'est donné le temps au temps et s'est déjà vu passer 3 jours ou 3 mois sur une page d'amour. Il sait que l'homme est fait pour rêver et la femme pour être rêvée. Il traîne de par le monde son regard qui semble désabusé, son porte-plume, sa bouteille d'encre violette, ses buvards et son élevage de mots d'amour bien vivants. Des mots d'amour qui, comme les oiseaux du littoral, partent parfois se poser à terre. Il lance ses correspondances et ses monologues dans l'espace comme des bouteilles à l'amour. Il n'attend jamais de réponse à ses missives, il les espère, mais il sait combien est grande la frayeur de la feuille blanche pour les autres. Il cultive ses images, ses flashs et ses mots au grand large et les envoie en cadeau. Epistolero n'attend pas, il espère. Pauvre Epistolero. Pauvre Don Quichotte famélique du grand large, qui tient son porte-plume comme une lance de tournoi et qui tente de toutes ses forces, de toute sa foi, d'anéantir chez autrui cette solitude qui est sa propre maîtresse depuis tant d'années. Pauvre Epistolero qui ne donne que ce dont il a besoin à en crever. Il connaît le fond de la solitude qu'il a atteint en solitaire sur un océan sur lequel il a un mois durant bercé une plaie d'amour insuturable. Il sait l'abandon et la mort, il les a tous les deux vécus seuls en mer. Il connaît intimement le fond des plus grandes fosses abyssales, les monstres qui les hantent et les combats qu'il faut y mener. Il connaît dans sa chair le sens de la phrase d'Anita Conti, la vie, ce grand massacre organisé. L'enfant malade, incurable, bouffé de métastases de tendresse qui survit en lui s'insurge et se bat pour un monde moins sale. Il dit que si nous voulons que le monde change, c'est à nous de le faire et il le fait. Mais Epistolero ne connaîtra jamais cette horreur commune aux constipés et à l'écrivain, l'angoisse de la feuille blanche.